terriennes et autres formes de vie. Sachez-le, la vérité est sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Traversez les bornes de l'espace et du temps en ma compagnie pour découvrir ou redécouvrir le meilleur du fantastique. Littérature, cinéma, télévision, les médias sont nombreux, mais la vérité reste la même, ils sont parmi nous. L'heure fantastique, première. Le fonctionnement est simple, un thème par émission, décliné à travers des œuvres différentes et repris pour quelques conseils pratiques à utiliser dans cet univers fantastique. Première émission, premier thème, le voyage dans le temps. Et notre premier voyageur temporel est un personnage culte de la télévision anglaise. J'ai nommé le Docteur. Docteur qui ? Non, juste le Docteur. Un patronyme qui a donné son nom à la série Doctor Who, créée par la BBC et qui existe outre-Manche depuis 1963. Avec une musique tout à fait dans le ton fantastique, que j'ai d'ailleurs empruntée façon hommage pour le générique de cette émission. On s'en refait un bout ? Petite pause dans les années 90, la série a repris en 2005 et sa nouvelle version en est déjà à la saison 6. Avec Torchwood, son spin-off, reprenant les aventures du capitaine Jack Harkness, ancien acolyte du Docteur, Doctor Who reste un programme phare et star de la BBC et une référence culte en Grande-Bretagne. Mais ne vous y trompez pas, le Docteur n'est pas anglais, c'est un extraterrestre, un seigneur du temps plus précisément, venu de la planète Gallifrey. Et si on lui demandait de se présenter lui-même ?
Je suis le Docteur. Je suis un seigneur du temps. Je viens de la planète Gallifrey de la constellation de Castorporos. J'ai 903 ans et je suis l'homme qui va vous sauver, ainsi que les 6 milliards d'humains de la planète Terre. Ça vous pose un problème ?
Non.
Alors, dans ce cas, allons-y !
Quelle assurance, quelle classe ce docteur! Un vrai héros, notre seigneur du temps. Et cool avec ça. Ça donne envie de le suivre n'importe où, et même n'importe quand. Seul survivant de la terrible guerre du temps qui opposa ses semblables au cruel Dalek,
exterminate, exterminate, exterminate,
le docteur passe le temps en voyageant à travers. Pour ce faire, il utilise son précieux TARDIS, ce qui signifie temps, à relativité dimensionnelle interspatiale. Un vaisseau spatial à la forme bien curieuse. Sa fonction de camouflage étant tombée en panne, il conserve désormais l'apparence sympathique, bien qu'un peu désuète, d'une cabine de police londonienne. Une petite boîte bleue qui servait autrefois aux policemen à enfermer les bandits en attendant du renfort. Approximativement de la taille d'une cabine téléphonique, vous allez me dire que l'on doit s'y sentir un peu à l'étroit. Oui, mais...
Ah, c'est vrai, Juliette, c'est plus grand à l'intérieur. Alors, vous en dites quoi ?
À vrai dire, j'aurais cru que ce serait moins négligé.
Négligé ? Je peux encore vous ramener chez vous, vous savez ?
Voilà le secret, c'est plus grand à l'intérieur. Une exclamation que ne cesseront de répéter les compagnes et compagnons du docteur en découvrant le fameux TARDIS. Car oui, c'est quand même plus sympa de voyager dans le temps et dans l'espace en étant accompagné. Cela donne parfois au docteur des petits airs de guide touristique, comme lorsqu'il emmène Donna Noble, sa compagne lors de la saison 4, à Pompéi. Mais les voyages dans le temps sont rarement reposants, surtout le jour du volcan.
«
voyage temporel mais même univers décalé, on reste dans le fantastique et l'humour anglais avec l'œuvre de Douglas Adams. Ce génial touche-à-tout britannique, qui a d'ailleurs participé dans les années 70 à l'écriture des scénarios de la série Doctor Who pour la BBC, ainsi qu'à celle des sketchs des Monty Python, est l'auteur du Guide du Voyageur Galactique. En anglais, pardonnez l'accent, The Hitchhiker Guide to the Galaxy, résumé par les initiales H2G2. D'abord série radiophonique créée pour la BBC, puis série télévisée, films, bandes dessinées, jeux vidéo. H2G2, c'est aussi un roman. Une trilogie en 5 tomes plus exactement. Les 5 volumes, le guide du voyageur galactique, le dernier restaurant avant la fin du monde, la vie, l'univers et le reste, salut et encore merci pour le poisson, et enfin, globalement inoffensive, racontent les aventures d'Arthur Dent, terrien maladroit et plaintif, qui, après avoir échappé de peu à la destruction de la planète Terre, traîne son peignoir et ses pantoufles dans tout l'univers, sans cesser de râler et de réclamer du thé. Accompagné de son ami Fort Perfect, qu'il avait toujours cru terrien, mais qui se révèle natif de Beltégeuse, du cousin de ce dernier, Zaphod Belbebrox, président de la galaxie, fêtard invétéré, doté de 3 bras et de 2 têtes, de Trilliane, la seule autre survivante terrienne, et enfin de Marvin, robot aussi exagérément intelligent que dépressif, Arthur Dent va vivre des aventures mouvementées, décalées et un brin absurdes. Il sera question au cours de ces 5 tomes de sauver la Terre, voire l'univers, plusieurs fois, de faire apparaître des cachalots en plein ciel, de voler des vaisseaux spatiaux, d'échapper aux monstrueux Vogons, destructeurs dans plusieurs dimensions de la planète Terre et piètre poète, d'ériger la confection du sandwich au rang d'art respecté, de faire la fête, et tout de même d'aller manger un bout quelque part. Et à aller casser la graine, autant se la jouer classe et réserver une table au dernier restaurant avant la fin du monde. Dans le second volume de cette saga déjantée, Arthur Dent expérimentera le voyage temporel à des fins culinaires. Il ne s'agit pas en effet pour la fine équipe d'aller à l'aventure, mais de se faire servir un steak dans le resto le plus extraordinaire de tout l'univers. Protégé par un champ de force et décoré avec beaucoup de mauvais goût, le dernier restaurant avant la fin du monde propose à ses invités de déguster un petit plat, de boire un bon cocktail, si possible un gargle blaster pangalactique, boisson décrite comme l'équivalent d'une agression, aussi ruineuse que douloureuse pour le crâne, et d'admirer la fin du monde. Laquelle, grâce aux astuces du voyage temporel, recommence tous les soirs.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Whatever happens, I leave it all to
L'heure fantastique a pour thème ce mois-ci le voyage dans le temps. Mais il ne m'était tout simplement pas possible de traiter un tel thème sans évoquer le classique du classique, j'ai nommé The Time Machine d'H.G. Wells. Persuadé que le temps est une quatrième dimension de même nature que la longueur, la largeur et la hauteur, un inventeur de génie construit une machine extraordinaire qui va lui permettre de se déplacer à travers les siècles. Et c'est vers le futur que se portera son choix, un futur très très lointain, l'an 802701. Tout y est évidemment très différent, et notre voyageur du temps y fera des rencontres charmantes. Les petits Héloïs, humanoïdes pacifiques et joueurs avec qui il se liera d'amitié. Mais ce ne sont pas les seuls habitants du futur. Et les rencontres seront aussi effrayantes. Lorsque le voyageur se retrouvera face aux terribles Morlocks, des prédateurs nocturnes et souterrains pas vraiment sympathiques. Confronté aux résultats de l'évolution de l'humanité, l'explorateur n'aura pas tellement envie de s'attarder. Oui, mais voilà, la machine a été volée par les affreux Morlocks. Il faudra donc tout tenter pour la récupérer et revenir, enfin, au XIXe siècle, avec pour seule preuve de ce fabuleux voyage, quelques fleurs inconnues. Suffisant pour convaincre quelques gentlemen anglais de l'efficacité de sa machine à voyager dans le temps? Pas sûr. Mais le but était-il réellement de faire la preuve de ses théories? C'est peut-être bien plus l'expérience qui grise notre explorateur, qui repartira très vite ailleurs. Terriens, terriennes et autres formes de vie, vous êtes sur Radio Saint-Afrique pendant l'heure fantastique. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route, les chemins du fantastique nous ont conduits dans les pas de voyageurs temporels, aventureux et non dénués d'humour, anglais de préférence. Aller faire un petit tour dans le futur ne manque pas de classe, c'est sûr. Mais le passé alors? Il nous fallait bien envisager le voyage dans l'autre sens tout de même. Et on reste dans la littérature fantastico-comique anglaise avec un pilier, j'ai nommé Terry Pratchett. L'auteur des Annales du Disque Monde, qui se décrit lui-même comme auteur de fantasy et humoriste, nous conte les aventures des habitants d'un monde bien étrange. Une curieuse planète, plate, juchée sur le dos de quatre éléphants, eux-mêmes en équilibre sur le dos d'une tortue géante, s'élançant avec grâce dans l'immensité de l'espace. Parmi les habitants du Disque Monde, le commissaire Sam Wimmer, dirigeant le guet d'Ankh-Morpork, retient l'attention du lecteur, qui le retrouvera au fil de la saga, mêlé à de nombreuses intrigues, allant de l'apparition d'un dragon en ville au complot en tout genre. Après avoir traversé son lot d'épreuves, mûri, rencontré l'amour, gravi, malgré lui, les échelons de la société et de la hiérarchie du guet, Sam Wimmer revient dans le tome 27 des Annales du Disque Monde, intitulé « Ronde de nuit ». S'évertuant, comme à son habitude, à faire régner autant que possible l'ordre dans la grouillante cité d'Ankh-Morpork, Sam Wimmer se précipite à la poursuite d'un dangereux assassin sur les toits de l'université de l'invisible. mélanger une course-poursuite haletante, un orage qui éclate, la foudre qui frappe, le tout sur les toits d'une école de magie, elle-même située sur un monde où l'impossible arrive 9 fois sur 10, agiter l'ensemble, cela nous donne un voyage dans le temps, bien involontaire pour le malheureux Sam Wimmer, qui se retrouve plusieurs dizaines d'années dans son propre passé. Et lorsqu'on va faire un petit tour dans le passé, il est souvent inévitable que l'on en vienne à croiser des connaissances. En ce qui concerne le capitaine Wimmer, c'est lui-même à qui il va devoir se confronter. Un lui-même plus jeune, petit agent du guet sans expérience, qu'il va s'employer à former. Et le paradoxe temporel, me direz-vous? Le passé est le passé, on ne peut pas le modifier. Non? Non. Wimmer ne change rien, ou si peu, au passé. Il endosse l'identité de Jean Quille, celui-là même dont il se souvient avoir suivi les conseils avisés dans sa jeunesse, et revit l'histoire avec un deuxième point de vue.
Bonhomme, ne sais-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles? Bonhomme, ne sais-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles? Voilà maintenant que tu sommeilles, voilà maintenant qu'à tes oreilles l'égalité pleure et gémit. Bonhomme, lève-toi le jour lit, et vive la commune, bon Dieu, et vive la commune, et vive la commune, bon Dieu, et vive la commune.
Bonhomme, n'entends-tu pas, le bourgeois raille ta misère?
Bonhomme, n'entends-tu pas, le bourgeois raille ta misère? Il dit que ton sang dégénère, que la race autrefois si fière se coule aujourd'hui sous la peur. Bonhomme, car tu fais de ton cœur, et vive la commune, bon Dieu, et vive la commune, et vive la commune.
Et pour terminer cette petite liste non exhaustive des voyageurs temporels, traversons l'Atlantique pour aller jeter un œil à la série Lost. Lost, les disparus. Un avion s'écrase sur une île déserte, qui ne l'est d'ailleurs pas tant que ça. Un monstre dans la jungle, des ours polaires, des mystérieux autres, ça fait quand même du monde. Et au cours de leurs aventures, les naufragés en viendront à découvrir que l'île sur laquelle ils vivent est très, très spéciale. À tel point qu'en tournant une roue au fond d'un puits, l'un des personnages, John Locke, déplacera carrément l'île. Oui, oui, un déplacement spatial, mais aussi temporel. Et c'est comme cela que nos disparus se retrouveront dans les années 70. Faire en 1977 sur une île bizarre où ont lieu d'étranges expériences. Pendant que certains se frottent au paradoxe temporel en essayant, en vain, de changer le cours des choses, ne faisant finalement que les réaliser, d'autres auront des projets plus originaux. C'est ainsi que le personnage d'Hurley entreprend d'écrire, avant George Lucas, l'Empire contre-attaque, en prenant soin d'y insérer quelques subtiles modifications afin de parfaire un peu l'œuvre. Après tout, pourquoi pas? D'autres idées, en revanche, sont plutôt à éviter. Alors, quel réflexe adopter lorsqu'on se retrouve dans son propre passé? Peut-on chercher à modifier le cours des événements sans altérer la structure de l'espace et du temps? Peut-on aller jeter un œil aux chiffres du loto de la semaine prochaine? Que faut-il emporter dans sa valise lorsqu'on voyage dans le temps? Tous les conseils, toutes les astuces du voyageur temporel, c'est sur Radio Saint-Afrique pendant l'heure fantastique. Bien sûr, certains voyageurs se retrouvent propulsés accidentellement dans le passé ou le futur. Lorsque le voyage est imprévu, il est difficile de prendre les devants. Pour parer à toutes les éventualités, pensez donc à bien apprendre vos cours d'histoire, étudiez avec soin votre arbre généalogique, cela peut éviter de flirter avec sa grand-mère, et surtout, pas d'objets métalliques dans les fours à micro-ondes. Bien sûr, certains comme Douglas Adams vous diront que devenir accidentellement son propre grand-père n'est pas si grave. Rien qu'une bonne analyse ne puisse soigner. Non. L'embêtant avec les voyages dans le temps, c'est la concordance des temps, la conjugaison, quoi. À quel temps conjuguer le verbe de l'action que je n'ai pas encore entreprise sur ma propre ligne temporelle, mais que j'ai déjà réalisé à l'époque à laquelle je me trouve? Si le voyage est prévu, pensez donc à emporter un Becherel dans vos bagages, qui devront en outre comporter une solide trousse à outils. Les machines à voyager dans le temps se dérèglent facilement, et l'on ne trouve pas de magasin de bricolage dans le Pléistocène. Gare aux actions malheureuses, enfin, surtout si vous voyagez dans le passé. Certains auteurs vous diront que l'on ne change rien au passé, et que tout ce que l'on peut y faire s'est en fait déjà déroulé. Ce à quoi d'autres opposeront le fameux paradoxe du grand-père. Imaginez-vous faisant un petit tour en 1940 et provoquant accidentellement la mort de votre grand-père, empêchant du même coup la naissance de votre père et la vôtre. Embêtant. Et imaginez-vous remontant à la préhistoire et refilant votre grippe aux hommes des cavernes qui succombent tous, mettant un terme à toute l'humanité. Carrément flippant. On évitera donc toute intervention afin de ne pas prendre de tels risques. À moins de se la jouer côte quantum. Et d'essayer de réparer les erreurs du passé, évidemment. Voyager dans le futur ne comporterait pas de si grands dangers, mais cela, à mon humble avis, gâcherait vraiment tout le suspense. J'ai en fait une nette préférence pour le voyage dans le passé. Si je tombais sur le TARDIS du Docteur, ou la machine à explorer le temps décrite par Wells, je sais exactement quand j'irai. Je remonterai dans les années 80-90 pour assister au concert de Queen. Et vous, vous avez une petite idée ? Passé, futur, quand? Allez faire un petit tour sur le site de la radio, sur la page de l'émission, et envoyez-moi vos suggestions. Terriens, terriennes et autres formes de vie, c'était l'heure fantastique sur Radio Saint-Afrique. Notre thème ce mois-ci était le voyage dans le temps, et nous avons voyagé. Du côté littérature, on a jeté un œil aux délirantes annales du Disque Monde de Terry Pratchett, au cultissime Guide du voyageur galactique de Douglas Adams, ainsi qu'au classique et indémodable roman d'H.G. Wells, La machine à explorer le temps. Côté télé, on a voyagé aux côtés du Docteur, héros de la série culte Doctor Who, et on allait faire un petit tour dans les années 70 avec les naufragés de Lost. Pour ceux qui en redemandent, toutes les références sont sur la page de l'émission. À bientôt, et ouvrez l'œil, ils sont parmi nous.